ce fut à ce point-là que se leva avec véhémence frère Jérôme, évêque de Caffa, la barbe vibrante de colère, même si ses paroles cherchaient à paraître conciliantes. Et il se lança dans une argumentation qui me sembla plutôt confuse.
« Ce que je voudrais dire au Saint-Père, et moi-même qu'il dirait, je le place dès à présent sous sa correction, car je crois vraiment que Jean est le vicaire de Christ. Et pour cette confession, je fus pris par les Sarrasins. Et je commencerai en citant un fait rapporté par un grand docteur sur la dispute qui s'éleva un jour entre des moines au sujet de l'identité du père de Melchisédek. Et alors l'abbé Cope, interrogé à ce propos, se heurta le chef et dit « Gare à toi, Cope ! Car tu cherches uniquement des choses que Dieu ne te demande pas de chercher et tu négliges celles qu'il veut que tu trouves. Voilà, comme on le déduit clairement de mon exemple, il est si évident que Christ et la bienheureuse Vierge et les apôtres n'eurent rien, ni en particulier ni en commun, qu'il serait moins évident de reconnaître que Jésus fut homme et Dieu à la fois. Et pourtant, il me semble clair que celui qui nierait la première évidence devrait ensuite nier la seconde, dit-il triomphalement. Et je vis Guillaume qui levait les yeux au ciel. J'eus le soupçon qu'il jugeait le syllogisme de Jérôme plutôt défectueux. Et je ne peux lui donner tort. Mais encore plus défectueuse me parut l'argumentation contraire et furieuse de Jean de Beaune, qui dit qu'à affirmer quelque chose sur la pauvreté de Christ, on affirme ce qui se voit ou ne se voit pas des deux yeux, tandis qu'à définir son humanité et sa divinité intervient la foi, raison pour laquelle les deux propositions ne peuvent être mises à égalité. Dans sa réponse, Jérôme fut plus subtil que son adversaire.
« Oh non, mon cher frère, dit-il, c'est précisément le contraire qui me semble vrai, car tous les évangiles déclarent que Christ était homme et mangeait et buvait, et, du fait de ces très évidents miracles, il était Dieu aussi, et tout cela saute justement aux yeux. »
« Les mages aussi, et les devins firent des miracles, dit de Beaune avec suffisance.
« Oui, rétorqua Jérôme, mais par des opérations d'art magique. » Et tu veux mettre sur le même pied les miracles de Christ et l'art des magiciens ?
L'assemblée murmura indignée que non, qu'elle ne le voulait pas.
Et enfin, poursuivit Jérôme, qui désormais se sentait près de la victoire, Messer le cardinal du Poghetto voudrait considérer comme hérétique la croyance en la pauvreté de Christ, quand c'est sur cette proposition que c'était la règle d'un ordre tel que l'ordre franciscain, dont il naît royaume du Maroc jusqu'à l'Inde, où les fils ne soient allés prêchant et répandant leur sang ?
« Sainte âme de Pierre d'Espagne, murmura Guillaume, protège-nous, toi. »«
Frère très cher, vociféra alors de Beaune, en faisant un pas en avant. Va pour le sang de tes frères. Mais n'oublie pas que ce tribut a aussi été payé par les religieux d'autres ordres. »«
Sauf ma révérence au seigneur cardinal, cria Jérôme, aucun dominicain n'est jamais mort au milieu des infidèles, tandis que rien qu'à mon époque, 9 minorites ont été martyrisées. »
Le visage écarlate, le dominicain évêque d'Alboréa se leva.
Alors moi, je peux démontrer qu'avant les minorites, fussent en Tartarie le pape Innocent y envoya 3 dominicains.
Ah oui, ricana Jérôme. Eh ben moi, je sais que depuis 80 ans, les minorites sont en Tartarie, ont 40 églises dans tout le pays, alors que les dominicains n'ont que 5 postes sur la côte et doivent être en tout 15 frères, et le problème est ainsi résolu.
Aucun problème n'est résolu, cria Alboréa, car ces minorites qui accouchent de bougres comme les chiennes mettent bas leurs chiots s'attribuent tout à eux-mêmes, et ils se vendent de leurs martyrs, et puis ont de belles églises, des parements somptueux, et ils achètent et ils vendent comme tous les autres religieux.
Non, mon sire, non, intervint Jérôme, ils n'achètent ni le vendent eux-mêmes, mais par l'intermédiaire de procurateurs du siège apostolique, et les procurateurs détiennent la propriété, tandis que les minorites n'en ont que l'usage.
« Vraiment ? Railla Alboréa. Et combien de fois as-tu vendu alors sans procurateur ? Je connais l'histoire de certains domaines que... »«
Si je l'ai fait, j'ai commis une erreur, interrompit précipitamment Jérôme. Ne rejette pas sur l'ordre ce qui peut avoir été faiblesse de ma part. »«
Mais mes vénérables frères, intervint alors Abon, notre problème n'est pas de savoir si les minorites sont pauvres, mais si notre Seigneur était pauvre. »«
Eh bien, se fit encore entendre Jérôme, j'ai sur cette question un argument tranchant comme le fil de l'épée. »
« Saint François protège tes fils, dit Guillaume, ayant perdu toute confiance.
« L'argument est, poursuivit Jérôme, que les orientaux et les grecs, bien plus familiers que nous de la doctrine des saints-pères, tiennent pour certaine la pauvreté de Christ. Et si ces hérétiques et schismatiques soutiennent aussi limpidement une aussi limpide vérité, voudrions-nous être, nous, plus hérétiques et plus schismatiques qu'eux et la nier ? Ces orientaux, s'ils entendaient certains d'entre nous prêcher contre une telle vérité, ils les lapideraient !»
« Mais qu'est-ce que tu racontes ?» persifla Alboréa. « Et pourquoi alors ne lapide-t-il pas les dominicains qui prêchent justement contre ça ?»«
Les dominicains ? Mais si là-bas j'en ai jamais vu !»
Alboréa, rouge de colère, observa que ce frère Jérôme avait été en Grèce 15 ans, peut-être, tandis que lui, il y avait été dès son enfance. Jérôme répliqua que lui, le dominicain Alborea, avait peut-être été jusqu'en Grèce, mais pour y mener une vie douillette dans de beaux palais épiscopaux, alors que lui, franciscain, y avait vécu non pas 15 ans, mais 22 années, et avait prêché devant l'empereur à Constantinople. Alborea, à court d'arguments, tenta de franchir l'espace qui lui séparait les minorites en proclamant à haute voix et avec des mots que je n'ose rapporter sa ferme intention d'arracher sa barbe à l'évêque de Caffa, dont il révoquait en doute la virilité et parce que précisément, selon la logique du talion, il voulait punir en utilisant cette barbe en guise de fléau. Les autres minorites coururent faire un rempart en défense de leurs frères. Les Avignonnais jugèrent utile de prêter main forte aux Dominicains et il s'ensuivit « Seigneur, prends pitié des meilleurs de tes fils », une rixe que l'abbé et le cardinal cherchèrent en vain d'apaiser. Au cours de ce tumulte, minorites et dominicains se lancèrent réciproquement des mots fort graves, comme si chacun d'eux était un chrétien en lutte avec les sarrasins. Les seuls qui restèrent à leur place furent d'un côté Guillaume et de l'autre Bernard Gay. Guillaume paraissait triste et Bernard gai. Si tant est qu'on pût parler de gaieté pour le pâle sourire qui plissait sur la lèvre de l'inquisiteur. « N'y a-t-il point de meilleur argument ? » demandai-je à mon maître, tandis qu'Alborea s'acharnait sur la barbe de l'évêque de Caffa pour démontrer ou nier la pauvreté du Christ. « Mais tu peux tout aussi bien affirmer l'une et l'autre chose, mon Bonazzo, » dit Guillaume. « Et tu ne pourras jamais établir sur la base des évangiles si Christ considérait comme sa propriété et jusqu'à quel point la tunique qu'il portait et dont il est bien possible qu'il se débarrassait quand elle était usée. Et, si tu veux, la doctrine de Thomas d'Aquin sur la propriété est plus hardie que celle des minorites. Nous disons, nous ne possédons rien, et nous avons usage de tout. Lui, il disait, vous pouvez vous considérer possesseur, pourvu que si quelqu'un manque de ce que vous possédez, vous lui en permettiez l'usage, et par obligation, non par charité. Mais la question n'est pas si Christ était pauvre et si l'Église se doit d'être pauvre. Et pauvre, en tout cas, ne signifie pas tant posséder ou non un palais, mais garder ou abandonner le droit de légiférer sur les affaires terrestres. Voilà donc pourquoi, dis-je, l'empereur tient tant au discours des minorites sur la pauvreté. En effet, les minorites font le jeu impérial contre le pape. Mais pour Marsile et pour moi, le jeu est double. Et nous voudrions que le jeu de l'Empire fît notre jeu et servît à notre idée de l'humain gouvernement. Et c'est ce que vous direz quand il faudra que vous preniez la parole ? Si je le dis, j'accomplis ma mission, qui était de rendre manifeste les opinions des théologiens impériaux. Mais si je le dis, ma mission échoue, car j'aurais dû faciliter une seconde rencontre en Avignon, et je ne crois pas que Jean accepte que j'aille là-bas dire ces choses-là. Et alors ? Et alors, je suis pris entre deux forces opposées comme un âne qui ne sait de deux sacs de foin lequel manger. Le fait est que les temps ne sont pas mûrs. Marsile divague sur une transformation impossible pour l'heure, et Louis n'est pas meilleur que ses prédécesseurs, même si pour le moment il reste l'unique garde-fou contre un misérable comme Jean. Peut-être devrais-je parler, à moins que cela ne finisse d'abord par se tuer les uns les autres. Dans tous les cas, écris, Atzo, qu'au moins reste trace de ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Et Michel ? Je crains qu'il ne perde son temps. Le cardinal sait que le pape ne cherche pas une médiation. Bernard Guy sait que sa tâche est de faire échouer la rencontre. Et Michel sait qu'il ira en Avignon quoi qu'il arrive, parce qu'il ne veut pas que l'ordre coupe tous les ponts avec le pape. Et il va risquer sa vie. Tandis que nous parlions de la sorte, et je ne sais vraiment pas comment nous pouvions nous entendre l'un et l'autre, la dispute était à son comble. Les archers intervenaient sur un signe de Bernard Guy pour empêcher que les deux bandes en vinssent définitivement aux mains. Mais tels des assiégeants et des assiégés, de chaque côté les murailles d'une forteresse, ils se lançaient contestations et injures, que je rapporte ici au hasard sans plus réussir à en attribuer la paternité, et étant si bien entendu que les phrases ne furent pas prononcées à tour de rôle, comme cela se produirait lors d'une dispute dans mes contrées, mais à la mode méditerranéenne, les unes chevauchant les autres comme les lames d'une mer enragée. L'Évangile dit que Christ avait une bourse.
« Tais-toi, veux-tu, avec cette bourse que vous peignez même sur les crucifix. Qu'en dis-tu alors du fait que notre Seigneur, quand il était à Jérusalem, revenait chaque soir à Béthanie ? Et si notre Seigneur voulait aller dormir à Béthanie, qui es-tu, toi, pour critiquer sa décision ? Non, vieux bouc, notre Seigneur revenait à Béthanie parce qu'il n'avait pas de quoi se payer l'auberge à Jérusalem !»
Bona Grazia, c'est toi le bouc. Et que mangeait notre seigneur à Jérusalem?
Et toi, tu dirais que le cheval qui reçoit de l'avoine de son maître pour survivre a la propriété de l'avoine?
Tu vois bien que tu compares Christ à un cheval.
Non, c'est toi qui compares Christ à un prélat simoniaque de ta cour.
Chante, pleure d'excréments.
Oui? Et combien de fois le Saint-Siège a dû endosser les procès pour défendre vos biens?
Les biens de l'Église, pas les nôtres. Nous en avions l'usage.
L'usage pour les dévorer, pour vous fabriquer de charmantes églises avec des statues d'or, hypocrites, vaisseaux d'iniquité, sépulcres blanchis, sentines de vice. Vous le savez bien que c'est la charité et non la pauvreté, le principe de la vie parfaite.
Ça, c'est votre glouton de Thomas qui l'a dit.
Attention à toi, impie! Celui que tu appelles glouton est un saint de la Sainte Église romaine.
Saint de mes sandales, canonisé par Jean pour irriter les franciscains.
Votre pape ne peut pas faire de saint, car c'est un hérétique, mieux, c'est un hérésiarque.
Cette belle proposition, nous la connaissons déjà. C'est la déclaration du fantoche de Bavière à Sachsenhausen, préparée par votre Hubertin.
Attention à ce que tu dis, porc, fils de la prostituée de Babylone et d'autres roulures encore. Tu sais parfaitement que cette année-là, Hubertin n'était pas auprès de l'empereur, mais se trouvait justement en Avignon, au service du cardinal Orsini, et le pape l'envoyait comme messager en Aragon.
Je sais qu'il faisait vœu de pauvreté à la table du cardinal, comme il le fait maintenant dans l'abbaye la plus riche de la péninsule.
Hubertin, si tu n'y étais pas, toi, qui a suggéré à Louis de se servir de tes écrits?
Est-ce ma faute si Louis lit mes écrits? Il ne peut certes pas lire les tiens, illettré que tu es.
Moi, un illettré? Il était lettré, votre François, qui parlait avec les oies?
Tu as blasphémé!
C'est toi qui blasphème, fraticello balai rôti.
Moi, je n'ai jamais rôti de balai, tu le sais bien.
Bien sûr que si, avec tes fraticelles, quand tu t'enfilais dans le lit de Claire de Montfaucon.
Que Dieu te foudroie, j'étais inquisiteur en ce temps-là, et Claire avait déjà expiré en odeur de sainteté.
Continue, l'ire de Dieu s'abattra sur toi, comme elle s'abattra sur ton maître, qui a donné asile à deux hérétiques, comme cet ostrogoth Descartes et ce nécromant anglais que vous appelez Branous Ayrton.
Vénérable frère, criait le cardinal Bertrand et l'abbé.
Cinquième jour, tierce, où Séverin parle à Guillaume d'un livre étrange, et Guillaume parle au légat d'une étrange conception du gouvernement temporel.